Vous êtes bien à l'écoute de Clap et pile à l'heure pour le journal des sorties salles. Bravo. Alors aujourd'hui, un programme chargé avec deux grosses sorties événements. L'une parle d'un chanteur, l'autre d'un ranger de l'espace. Je vous laisse deviner à qui je fais référence. On parlera aussi d'une comédie romantique et musicale et enfin d'un patron espagnol faussement sympa. Mais avant de commencer, un mot sur le box-office. Petite semaine en termes de sorties cinématographiques, donc pas de gros bouleversements en tête du box-office. Une idée, Victor?
C'est toujours les gros avions avec Top Gun. Ah non?
Et non.
Ah non?
Et oui.
Quoi?
Ah
quoi?
Mm-hmm.
Mon Dieu.
Préhistoire.
Ah, Jurassic Park.
Oh là, putain.
Bah, ça fait du cœur, hein,
la déprime dans ce studio, quoi. Mon Dieu.
Ah, on l'aime pour son naturel et son franc-parler. Jurassic World, effectivement, toujours en tête du box-office, malgré une perte de 50% de sa fréquentation.
Bah voilà, Top Gun repasse devant la semaine prochaine.
Il y a eu la canicule, le bac, tout ça, tout ça. En tout cas, près de 628 000 fans de Sensations Fortes se sont déplacés en deuxième semaine, soit un cumul de 2 millions d'entrées à peu près en deux semaines d'exploitation. En deuxième position, Top Gun se maintient toujours au top un mois après sa sortie avec 471 870 spectateurs supplémentaires pour un cumul désormais de 3,8 millions d'entrées. Jusqu'où ira-t-il puisque la fête du cinéma se profile?
C'est vrai.
Ça va encore continuer à grandir. Et puis en troisième place, le film de Quentin Dupieux, Incroyable mais vrai. Et
ça, démarrage.
C'est un super démarrage, c'est une belle performance. 133 330 tickets vendus en une semaine. C'est vraiment un bon score pour un Quentin Dupieux.
Ouais, tout à fait. C'est un démarrage qui est même supérieur légèrement à ce qu'il avait fait avec Mandibule. Donc ça fait super plaisir de voir Incroyable mais vrai bien marcher. C'est Incroyable mais vrai.
Bien marcher à côté des scores des blockbusters américains, c'est quand même très en dessous.
Ça, c'est très joli.
Il faut vraiment aller voir du cinéma français aussi un peu.
Oui. Ouais.
C'est pour ça, on va essayer de vous donner envie d'aller voir du cinéma français. On commence notre tour d'horizon des sorties salles avec Les goûts et les couleurs. Un film de Michel Leclerc, l'histoire d'une jeune chanteuse interprétée par Rebecca Marder qui réalise un album avec une icône des années 70, Arejan, et un personnage fictif avant qu'elle ne décède subitement. Et pour finir l'album, elle va devoir rencontrer son héritier, joué par Félix Moati.
Et vous êtes qui exactement?
Une grande admiratrice de votre grande tante. Comme vous êtes l'ayant droit, il faudrait qu'on voit ce qui serait le mieux pour sortir l'album.
Je vous arrête tout de suite, je m'en bats les couilles de votre album.
Mais vous avez pas le droit. Hein.
Bien sûr que j'ai le droit, je suis l'ayant droit même. En fait, moi je ne connais pas Arejan, alors que toi si.
Je ne vois que des avantages.
Que des avantages, un grand inconvénient. De devoir supporter ce qu'on a.
On va sortir l'album, monsieur.
On voudrait faire avec Arejan ce qu'Orlando a fait avec Dalida.
Mais je voudrais la rendre populaire, tu comprends?
Jamais de la vie, je mets mon nom sur une merde pareille.
Franck Vallière.
Ben Michel Leclerc continue un petit peu son cinéma sur le désenchantement entre deux époques qui s'entrechoquent dans le milieu de la musique, c'est-à-dire une vieillissante, celle des vinyles et des chanteuses à texte. Judith Chemla joue une espèce de Brigitte Fontaine mixée avec Serge Gainsbourg. Voilà.
Elle est grimée, elle est vieillie, elle est super.
Et donc la nouvelle ère qui est celle des DJ couillons. Artus a un petit rôle mais qui joue un DJ couillon parfait.
Très
voilà,
drôle.
C'est l'histoire d'une romance contrariée entre une jeune femme moderne parce que pansexuelle mais assez nostalgique puisque nostalgique de ses vieilles chanteuses à texte. Avec un placeur des marchés, Félix Moati, qui se trimballe en vêtements caporal avec sa coche bandoulière près du corps, vous voyez de genre. Et l'amour contrarié entre ces deux personnes et un coming of age pour chacun d'entre eux au final. C'est désenchanté, mais en même temps plein d'espoir. C'est le cinéma de Michel Leclerc. Peut-être pas son meilleur film, mais en tout cas, ça mérite vraiment le détour.
On en parlait en début d'émission. Elvis, le biopic sur Elvis Presley, signé Baz Luhrmann, est enfin en salle. Le film retrace la vie du chanteur à travers les yeux de son manager, le colonel Parker, joué par Tom Hanks, méconnaissable. C'est un portrait vibrant, coloré, effréné, qui n'oublie pas de montrer l'importance de la famille et le combat d'Elvis contre la ségrégation aux États-Unis. Un vrai tourbillon musical porté à merveille par Austin Butler, vraiment épatant dans le rôle du King.
Je souhaiterais être votre manager, Monsieur Presley. Vous êtes prêt à vous envoler?
Je suis prêt. Prêt à m'envoler.
Demain, toute l'Amérique ne parlera que d'Elvis Presley.
Monsieur Presley, essayez de ne pas bouger autant pendant les prises.
Si je peux pas bouger, je peux pas chanter.
Sans moi, il n'y aurait pas de Elvis Presley.
Tom Hanks avec la voix changée.
Oui, tout à fait. Je trouve le film brillant. Je trouve que vraiment. Alors, je vais dire beaucoup de compliments sur plein de films cette semaine. Les auditeurs vont être un peu perturbés. Mais vraiment,
on va noter la date.
Exactement. Mais je suis un très grand fan du cinéma de Baz Luhrmann et c'est un peu la recommandation.
On rappelle,
que
Baz Luhrmann, Moulin Rouge.
C'est ça,
Gatsby.
Moulin Rouge, Roméo plus Juliette, Gatsby. Et donc, du coup, c'est du pur Baz Luhrmann. Si vous aimez le style de Baz Luhrmann, si vous aimez les effets kitsch, la caméra qui part dans tous les sens, il faut accepter que c'est ce genre de roller coaster-là adapté à la vie d'Elvis. Les 45 premières minutes sont à pleine balle. C'est pour moi la définition du LSD sur grand écran. Vraiment, je passe 45 minutes emporté par la musique, brinque-ballé dans mon fauteuil. J'ai l'impression d'être en 4DX alors que le siège bouge pas. C'est vraiment absolument fou et surtout c'est servi par des comédiens de talent. Il y a beaucoup de reprises musicales comme aime le faire Baz Luhrmann et ça marche aussi très bien. Vraiment, je suis ravi de voir Baz Luhrmann revenir au cinéma quasiment 10 ans après Gatsby. Il était passé par une série télé à l'époque, mais bref.
Et Australia, mais bon, ça on le dira pas.
Non, mais c'est le film que tout le monde préfère oublier.
Avec
Australia.
Nicole Kidman.
Quel enfer. Non, vraiment, je suis extrêmement heureux de ce Elvis. Léger petit bémol, parce que vous en parliez, Laurie, en disant que on voyait le combat d'Elvis contre la ségrégation. Non, c'est pas ce chanteur blanc qui a sauvé toutes les populations afro-américaines. C'est complètement faux. Et puis, surtout, c'est complètement à côté même de ce que raconte le film, parce que le film est serré de le faire passer pour ce Jésus-Christ blanc qui arrive en mode bah, « Moi, je vais pouvoir faire du blues ». Non, il y avait B.B. King déjà à l'époque, il y avait plein d'artistes. Peut-être que le film passe un peu trop rapidement là-dessus. Le cinéaste est australien, pas américain. Donc peut-être qu'il est moins féru de ce genre de sujet-là. Il n'empêche que, allez voir Elvis en salle. Ça dure 2h30, mais c'est 2h30 de bonheur. Et en ce moment, les cinémas sont climatisés. C'est le moment d'y aller.
Et on écoute vos réactions.
J'ai très bien aimé. Enfin, je connaissais un peu la vie d'Elvis Presley. Et là, ça remet tout en situation. C'est puissant. Hein.
J'ai pas adoré. Très honnêtement, j'ai trouvé ça un peu long.
J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Moi, je connaissais pas grand-chose à la vie d'Elvis. Je connaissais juste ses chansons. Et j'ai trouvé que c'était très bien interprété. Le style visuel du réalisateur est vraiment prenant.
Les images étaient bien faites. Tom Hanks était détestable. Butler, il arrive pas à la hauteur d'Elvis. Mais vraiment, il met toute son âme dans le personnage et c'est vraiment un très beau film.
Mitigé, hein ? Mitigé, bah, les
oui,
avis.
Mais parce que aussi, c'est un style tellement radical, tellement particulier que je peux comprendre qu'on reste en dehors. Il n'empêche que je préfère 100 fois des biopics qui ont des propositions extrêmement fortes comme celle-ci plutôt que des films qui vont vouloir rester un peu en surface.
Une autre sortie événement cette semaine, personnellement, c'est un vrai coup de cœur. C'est le nouveau Pixar, Buzz l'éclair, le plus célèbre ranger de l'espace, revient au cinéma. Il a enfin son film. Alors, on connaissait le jouet dans Toy Story, c'était le jouet préféré de Andy. Et bien maintenant, on va connaître son histoire.
Prêt, Capitaine l'éclair ?
Plus que jamais.
Vers l'infini.
Et au-delà. Journal de bord, Buzz l'éclair. Par ma faute, nous voilà tous coincés sur cette étrange planète. Je dois réparer mon erreur.
Bonjour Buzz. Ouais. Je m'appelle Sox. Ma mission c'est de t'aider et je ne renonce jamais à ma mission.
Bip 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 bip. Allons-y.
Tu entends ça?
Moi j'entends rien.
C'est clairement une violation de liberté conditionnelle.
Je suis poursuivi par le plus monstrueux des robots.
Victor ?
Ah, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce Buzz l'éclair. Après, je suis très client du cinéma de Pixar, surtout quand les films Pixar décident de sortir en salle et pas sur Disney+. Ça fait toujours plaisir de voir des films Pixar en salle. Pour le coup, vraiment beaucoup aimé le film parce que au-delà de la blague et du postulat de c'est Buzz l'éclair et on va découvrir son histoire, le plus intéressant ici c'est de voir que c'est un vrai film de science-fiction qui va convoquer à la fois le Dune de Lynch dans certaines combinaisons, qui va convoquer les facehuggers, qui va par plein d'aspects, vouloir donner du grand spectacle et du pur cinéma de science-fiction multigénérationnel. Et c'est ça qui me parle beaucoup dans ce Buzz l'éclair-là, c'est qu'au-delà de vouloir faire un Pixar qui va avoir toutes les thématiques des Pixar habituels, à savoir un personnage imbu qui va soudainement devoir avancer un peu dans sa vie, et puis même le questionnement de la passation vers des aînés, vers les nouvelles générations. C'est du pur Pixar dans le fond et dans la forme, c'est du grand spectacle de science-fiction qui questionne ses personnages 20 ans après. Je trouve ça vraiment, vraiment réussi.
Et les voix françaises sont très réussies. Chantal Latsou, Thomas Sisley, Michael.
Les gens
qui ont
craché sur la VF au moment de l'annonce, et ben je suis désolé, la VF est bonne.
Non mais attends, Buzz l'éclair, c'est Richard Darbois.
Non, alors.
Là, c'est François Civil.
Et alors, explication très très courte. Richard Darbois, c'était Tim Allen en VO, c'était le jouet Buzz. Ici, la question, c'est on a le personnage Buzz de la série. Donc, ce n'est plus le jouet, c'est plus le même personnage. Mmh. Et de la même manière qu'en VO, ce n'est plus Tim Allen qui fait Buzz, c'est Chris Evans, et ben on a changé la voix de Buzz en raccord avec l'original parce que ce ne sont pas les mêmes personnages pour bien créer le distinguo. Le jouet n'est pas le personnage du film.
Ça vous va ?
Il n'empêche qu'ils auraient pu choisir logiquement de capitaliser sur quelque chose qui relève d'une voix connue. Mais en même temps, ça, j'adore Civil.
Franchement,
tout,
la voix fonctionne et surtout, ça, il amène de l'émotion et de l'ampleur au personnage.
Et c'est surtout que Darbois, il a 65 ans et que le personnage en a 30. Donc, y a un truc qui aurait pas marché. Quoi.
Alors dans le cinéma français, tout on simplement. Marie des mecs de 70 ans avec des jeunes nés de 25 et tout le monde s'en fout. Alors là,
c'est un vrai problème, Franck. C'est un vrai problème.
On écoute vos réactions.
C'était très bien. Le petit chat, parce qu'il est trop mignon.
J'ai trouvé ça assez cool. C'est marrant, il y a de l'action. Enfin, j'étais aussi enthousiaste que ma fille devant le film.
Il est très bien, le petit chat. Il était mignon, il était bien.
Le travail d'animation de 3D était remarquable.
Trop bien. C'était Buzz l'éclair. L'aventure, elle était trop bien, surtout avec le chat.
Et les garçons, pour terminer, vous vouliez parler du film El Buen Patron, une comédie avec Javier Bardem en patron ferme et paternaliste d'une grosse entreprise. Film qui a remporté 6 Goya, donc ce sont les Césars espagnols.
Oui, tout à fait, pour meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur scénario, et il les mérite. Là où c'est passionnant, c'est que c'est un film qui va s'attaquer au vieux paternalisme de l'entreprise avec ce patron qui se dit qu'il a à la fois droit de cuissage sur ses stagiaires et en même temps, nous sommes une grande famille, je vous traite comme mes enfants, avec Javier Bardem qui est absolument brillant dans le rôle, et on passe assez rapidement du vaudeville au thriller. Le film arrive toujours à alterner les deux styles avec un travail sur la musique aussi que je trouve extrêmement réussi. Il y a une séquence finale qui va sûrement faire partie de mes séquences de cinéma les préférées de l'année.
Qu'aurait pu signer Ruben Östlund. C'est très Ruben Östlund la dernière séquence.
Bah, c'est mieux que Ruben Östlund. Oui. Non, je trouve ça vraiment très réussi, El Buen Patron.
Franck,
non, là, ce qui me sidère, moi, c'est la précision de Javier Bardem qui connaît De Arona depuis très longtemps et on a déjà fait plein de films ensemble. Il y a plein de Goya. Ça fait 25 ans que De Arona grafle des Goya qui sont l'équivalent des César en Espagne. Bardem vieillit, ressemble mais grave à Darmon dans Irréductible de Jérôme Commandeur, mais c'est dingue et vraiment,
c'est drôle.
Il est d'une précision mais totalement délirante face à une jeune stagiaire, bien sûr qu'il aime comme sa propre fille, sauf qu'il va bien sûr essayer de l'attraper.
C'est la comédienne du film Abuela,
voilà.
Elle est incroyable.
Et qui a quelque chose à jouer pour une fois, au lieu de la Scream Queen de base, et ça vraiment c'est très très réussi.